Conférence privée du noviciat par le père Marie Dominique Philippe à Saint-Chaudard, le 26 novembre 1992.
Quelques petites questions, toujours sur l'obéissance. L'obéissance est comme aux confins des vertus théologales, sans être une vertu théologale. Pouvez-vous nous préciser pourquoi elle n'en est pas une? Tout simplement parce que les vertus théologales regardent Dieu directement. Dieu nous révélant son mystère. Dieu nous promettant sa béatitude et Dieu nous donnant son amour. Donc, les vertus théologales permettent une relation personnelle directe avec Dieu, avec la très sainte Trinité. Vous savez comment beaucoup de mystiques, et sainte Catherine entre autres, font toujours cette relation. C'est que la foi regarde le Logos, la lumière. L'espérance regarde le Père. Et la charité, l'Esprit Saint. Saint Thomas dit que la charité est une participation de l'Esprit Saint. C'est sûr qu'il y a un lien particulier entre la charité et l'Esprit Saint, entre l'espérance et le Père. Très important, quand on est tenté de désespoir, il faut invoquer le Père. Que l'obéissance regarde un ordre. On obéit à une autorité qui nous commande. Évidemment, on pourrait dire que l'obéissance nous fait adhérer à Dieu en tant qu'autorité. C'est faux. C'est pas l'obéissance, c'est l'espérance. C'est pour ça qu'il y a un lien très fort entre espérance et obéissance. Et je crois qu'on peut le dire. Que la nourriture de la vertu dialogale d'espérance, c'est l'obéissance. Je crois. Je crois qu'on peut dire ça. Comme la parole de Dieu est la nourriture de la foi. Et vous voyez, on pourrait dire ceci, et je vois très bien la petite question. La parole de Dieu est à vérité première. La révélation et la promesse. L'obéissance nous fait vivre de l'ordre de Dieu par l'ordre adhère à l'autorité. Donc, vertu théologale. Vous voyez ? Ça, c'est le petit chêne qui n'est pas vrai. Hein ? Ne le retenez pas, surtout. Il ne faut pas que je mette dans votre tête une mauvaise idée. Il va falloir retenir ça. Mais il y a un petit quelque chose de vrai, comme toujours. Parce que la parole de Dieu est directement liée à Dieu lumière, vérité première. Tandis que les commandements de Dieu et l'autorité de Dieu, c'est différent. Les commandements de Dieu sont faits pour l'exécution. Et la vertu d'obéissance, c'est une vertu d'exécution. Tandis que la foi. L'exécution, c'est le fruit de l'obéissance. Alors c'est très vrai que l'obéissance est liée à la charité et à l'espérance. Mais l'obéissance ne conduit pas directement à l'autorité de Dieu. Il faut une autre vertu pour recevoir la promesse et vivre de l'autorité. Quelle est la vertu d'espérance et de charité? Surtout l'espérance. Donc vous voyez pourquoi l'obéissance n'est pas une vertu théologale. Parce que c'est une vertu qui regarde l'exécution. L'exécution, c'est quelque chose de créé. C'est pas divin. C'est pas Dieu, quoi. Quand vous balayez par obéissance, comme vous faites la cuisine par obéissance, même si vous la faites par obéissance, cette cuisine n'est pas divine. Pas Dieu que vous regardez dans le produit de la cuisine. Heureusement, pour Dieu. Alors, deuxièmement, quel est son rôle à l'égard de chacune des trois vertus théologales? L'obéissance. Solitude, on rêve de petite cabane dans le désert. Ça, on pourra prier Dieu toute la journée. On épluchera les légumes en priant Dieu. On fera la soupe en priant Dieu. Personne ne nous dérangera. On sera seul avec Dieu. On sera, c'est parfait. Mais on oublie qu'il y a l'imaginaire. Et que la vie commune a l'immense avantage d'apaiser l'imaginaire. Quelquefois elle l'excite. Mais... Parce qu'on se retrouve devant quelqu'un qui exagère dans son autorité, alors ça nous met en colère. La vie commune permet les colères. Et les colères, ça exige de nous d'acquérir la vertu de force pour dominer les colères. Et la vertu de force, c'est une vertu cardinale. L'obéissance, c'est curieux l'obéissance, parce que l'obéissance au point de vue chrétien est une vertu qui a une importance énorme. Jésus est mort dans l'obéissance. L'Église a toujours considéré que la vie religieuse, objectivement parlant, est une vie plus parfaite que la vie du mariage. Je dis bien objectivement parlant, c'est pas parce qu'il y a des gens mariés qui sont plus vertueux et plus saints que beaucoup de religieux. Ça, c'est sûr. Mais objectivement parlant, la vie religieuse a une perfection plus grande. Mais ça, c'est sûr. Parce qu'elle exige un don total. Ce que toujours m'a dit le père de Hose. Il m'a toujours dit, tu verras que dans la vie religieuse, on a fait au moins un acte parfait, héroïque dans sa vie, le jour de sa profession. Mais c'est vrai, ça. Et ça, c'est quand même quelque chose. Même si après, on a une vie qui... Bah oui, on a fait un acte héroïque. Et ordinairement, on répète cet acte héroïque tous les 21 novembre. Un acte héroïque. Si vous faites un acte héroïque par an, votre vie a une certaine valeur. Mais, et c'est vrai, ça. C'est que on tend l'arc, là, à ce moment-là, d'une façon très forte, pour se donner complètement. Alors, l'obéissance dans la vie religieuse est plus qu'une vertu cardinale. C'est la manifestation de notre totale consécration à Dieu, qui se manifeste par l'obéissance. C'est l'union affective qui devient une union affective grâce à l'obéissance. Donc, en éthique chrétienne, l'obéissance vient immédiatement après les vertus théologales. Mais c'est très vrai que pour obéir, il faut toujours la prudence. En terre chrétienne, on a les vertus théologales, l'obéissance et la prudence. La prudence est dépassée par l'obéissance. L'autre jour, quelqu'un me disait comme ça, notre conscience, notre conscience personnelle est toujours au-delà de l'obéissance. Ah, je dis non. Quand il s'agit de la vie religieuse, on a des autorités qui sont d'église. Alors, il peut y avoir des abus d'autorité, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est en face d'un abus d'autorité ? On obéit d'abord, puis ensuite, on essaie de s'éclairer pour savoir ce qu'on doit faire. On obéit d'abord. Ça, c'est l'attitude normale du religieux. L'attitude normale si saint par rapport à l'évêque. C'est pas premièrement d'obéir, c'est premièrement de voir si l'évêque a le droit de vous demander ça. Et c'est très intéressant de voir ça. Vous ne voulez pas exiger d'un prêtre diocésain la même obéissance que d'un religieux. Vous ne pouvez pas dire que l'évêque est supérieur de ses prêtres diocésains comme le prieur est supérieur de ses ouailles, de ses frères. Pas du tout. Même s'il s'appelle père. Il y a une obéissance beaucoup plus forte dans la vie religieuse que dans la vie diocésaine. Beaucoup plus forte. Parce que, en terre chrétienne, l'obéissance prend une valeur énorme. De sorte que je ne crois pas que je puisse dire si quelqu'un supérieur me donne un ordre. Et que intérieurement, j'ai l'impression que cet ordre n'est pas lui. Est-ce que je dois dire ma conscience refuse d'obéir? Ou est-ce que je dois dire j'obéis d'abord enfin, ce Dieu? Le supérieur me demande ça, j'obéis. Puis ensuite, essayer de voir quelqu'un qui peut m'éclairer. La vie chrétienne et la vie religieuse, c'est la grâce sanctifiante. Et de l'autre côté, c'est le point de vue des sacrements. C'est ça la différence. Vous voyez, la grâce sanctifiante est fondamentale. La vie religieuse est au niveau du corps mystique. Vous voyez. Et vous savez bien combien actuellement on reprend très fort la théologie du corps mystique en disant que Vatican, le Concile de Trente, avait trop insisté sur le point de vue des sacrements. Oui. Sacerdoce ministériel, sacerdoce royal. Oui. C'est pour ça que l'autorité d'un prieur par rapport à ses religieux va plus loin que l'autorité de l'évêque par rapport à ses prêtres. C'est un fait, ça. Et théologiquement, ça se comprend très bien. Parce que d'un côté, c'est les sacrements, et de l'autre côté, c'est la grâce sanctifiante. C'est pour ça que l'obéissance, cette question est très juste, l'obéissance a une place très particulière par rapport à la prudence chrétienne. Vous voyez ça? C'est très important.
Je comprends pas. Dans le sens où vous nous avez dit qu'effectivement, obéir, c'est adhérer au choix de mon supérieur sur moi. Or, par définition, à quelqu'un qui a le sacerdoce ministériel, dans ce type-là, qui est un autre type d'obéissance, n'a pas de valeur sans le sacerdoce dans lequel il participe, qui est celui du Christ, à travers la personne.
Oui, l'autorité d'un prieur ou d'une prieure qui n'a pas le sacerdoce est une autorité qui est directement liée à la consécration religieuse. Et la consécration religieuse est directement liée à la grâce sanctifiante et au sacerdoce royal des fidèles. Et le sacerdoce ministériel est ordonné au sacerdoce royal des fidèles. Notre sainteté relève plus profondément de notre grâce sanctifiante, sacerdoce royal des fidèles, sacerdoce ministériel. Oui. Notre sainteté est premièrement la grâce sanctifiante. La vie religieuse est d'abord pour notre sainteté. Oui. Or, l'autorité d'un prieur dans la vie religieuse est liée au vœu. Oui. Et donc, vous lie plus profondément que le prêtre à l'égard de son évêque. Vous voyez ? C'est très important de dire ça. C'est toute la question du sacerdoce royal, du sacerdoce ministériel. Ça vous choque un peu, ça ?
Non, c'est pas choquant. Moi, je vois deux ordres d'obéissance différents, effectivement. Mais j'ai l'impression qu'à partir du moment où on participe de quelqu'un au niveau du sacerdoce, par exemple, on ne peut pas être hors de l'obéissance, puisque je n'ai aucune valeur
et que
je me détache de lui. Mon sacerdoce n'existe plus si je participe.
Non, mais faites attention. Je ne parle pas de la désobéissance. Je parle de la manière d'obéir. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Vous prenez tout de suite la désobéissance. Je suis d'accord, dans les deux cas, la désobéissance nous met en dehors. Prenez ça pour que vous compreniez mieux. Le sacerdoce du Christ. Puisqu'il s'agit de ça. Relève de la plénitude de sa grâce. Sanctifiante. Plénitude de grâce sanctifiante qui est l'effet direct de l'union hypostatique. Il est fils bien-aimé du Père. Et cette union hypostatique, il est lié donc à la source de toute grâce, qui fait que, étant lié à la source de toute grâce, il y a en lui une plénitude de grâce qui le fait tête du corps mystique. Et c'est sa grâce, c'est son sacerdoce, par où il glorifie le Père et nous sauve. Le sacerdoce du Christ a une double participation. Sacerdoce ministériel, sacerdoce royal des fidèles. Le sacerdoce royal des fidèles se fonde sur la grâce sanctifiante. Par le baptême, il peut s'exercer, mais il est fondé sur la grâce sanctifiante. Et la grâce sanctifiante, c'est notre sainteté. Alors, tous les sacrements sont ordonnés à notre sainteté. On est prêtre pour les fidèles, propter homines. Le sacerdoce nous donne un pouvoir, et par ce pouvoir réclame de nous la sainteté, mais il ne nous donne pas directement la sainteté. Tandis que la consécration religieuse, la consécration est le fruit direct de la grâce sanctifiante. C'est pas un sacrement. C'est plus qu'un sacrement. Oui.
Justement, parce que ce sacerdoce ministériel est ordonné au sacerdoce royal des fidèles, est-ce que le sacerdoce ministériel ne prend-il pas tout son sens quand il est vécu au sein d'une vie religieuse? Et donc le presbytérium au sein d'un diocèse, est-ce qu'il y aurait pas, il ne s'enrichirait pas à vivre de cette obéissance?
Mais oui, mais de fait, vous obéissez à l'évêque en fonction de votre chose. On ne peut pas dire, le Saint-Père dit que le prêtre devrait vivre de l'esprit de la vie religieuse. Mais ce n'est pas la vie religieuse quand même. L'Église distingue toujours les deux. Et c'est pour ça qu'on dit que la vie religieuse permet au sacerdoce de s'épanouir plus pleinement. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je veux dire ici, j'essaie de comprendre le lien d'obéissance qu'il y a entre le prieur et les religieux, et le lien entre l'évêque et les prêtres. Et je dis que le lien entre le prieur et les religieux est un lien de vie. C'est toute ma vie qui est prise. Tandis que l'évêque, à l'égard de c'est son ministère. Vous voyez, immédiatement, c'est son ministère. Et par le fait même, sa vie, s'il y a un scandale dans sa vie, qui arrête son ministère. Mais ce n'est pas directement sa vie. Tandis que le religieux, c'est sa vie. Ma vie religieuse prend toute ma vie. Oui.
Est-ce que vous-même, vous concevez une vie diocésaine participant d'une vie religieuse comme ça, qui l'évêque avec ses prêtres aurait décidé de vivre d'une manière très religieuse comme ça? Dans l'esprit des
vœux. Ça a été le souci de saint Augustin de faire ça. Les chanoines réguliers, c'est autour de l'évêque, primitivement. Et qu'ils soient religieux de l'évêque. Le père à Lyon et à Saint-Jean-de-Malte, ces dominicains ont quitté les dominicains pour se faire religieux de l'évêque. Saint-Basile. Oui. Donc, c'est à l'intérieur de la dépendance à l'égard de l'évêque qui se lie de cette manière-là. Mais c'est un plus. Ce n'est pas quelque chose qui est lié directement au sacerdoce. C'est ça que je veux dire.
Mais pour la vie diocèse, c'est quand même. Ça pousse quand même plus loin la communauté et du fait même la charité fraternelle entre les prêtres.
Mais là, dans la vie religieuse, c'est quelque chose de plus profond et de plus radical. Voilà. La vie religieuse est directement ordonnée à la sainteté de ses membres. Et elle relève directement de la grâce sanctifiante. Vous voyez? Tandis que vous ne pouvez pas dire la même chose quand il s'agit de l'obéissance, vous voyez, du prêtre, du diocèse, avec l'évêque. Il promet obéissance à l'évêque pour sa charge sacerdotale. Et sa charge sacerdotale, c'est dans l'ordre sacramentel, et c'est sa vie apostolique. Ce n'est pas sa vie personnelle. Oui. Ça, je crois que c'est très très important, ça, de bien bien préciser que nos vœux de religion engagent notre grâce sanctifiante. Foi, espérance et charité. Puisque notre grâce, la vie religieuse, nous fait vivre des conseils évangéliques, donc des béatitudes, immédiatement. Vous voyez? Donc elle a quelque chose de plus dans l'exigence de l'obéissance. Un religieux est plus lié à l'obéissance par ses vœux qu'un prêtre diocésain à son évêque. C'est ça que je veux dire. Alors évidemment, un prêtre diocésain qui est un saint, comme le curé d'Ars, fait tout avec un tel amour que son obéissance à son évêque a une telle qualité que je dépasse tout. C'est sûr. Qu'un religieux qui traîne la patte et dit, oh, on va voir exactement ce qu'on doit obéir, qui se met à regarder le droit canon exactement, j'obéirai sur le droit canon. La vie religieuse n'est pas réglée par le droit canon. La vie religieuse est liée par un don personnel et total de nous-mêmes. Le droit canon est là uniquement pour permettre qu'il n'y ait pas d'abus. Ce n'est pas le droit canon qui commande ce qu'est la vie religieuse. On l'a tous senti très fort quand une fois un évêque à Paris de Monial prêchant les vœux, a pris son droit canon, puis s'est mis à lire, voilà ce qu'est un religieux. On s'est tous regardés, on a été respectueux. pas ça, la vie religieuse. Je sais pas le droit canon qui me fait comprendre la vie religieuse. Qu'est-ce qui me fait comprendre la vie religieuse? C'est Jésus qui dit à Pierre, qui dit à Philippe, suis-moi. Suivre l'agneau partout où il va. Mais, maître, où demeures-tu? C'est demeurer avec Jésus. Et demeurer, c'est une question de vie. Et de vie contemplative. La vie religieuse réclame la vie contemplative. Et l'obéissance religieuse se situe dans la ligne directe de la grâce sanctifiante. Et donc, de l'holocauste du Christ à la croix. Par la vie religieuse, on est agneau.
Propre à, ou bien tort, propre à l'homme qui
soit de plus en plus une union effective, qui le prenne complètement. C'est ça qu'il cherche, avant tout et en premier lieu. Et l'obéissance est faite pour l'exécution de cette union affective à l'union effective. Et dans la vie religieuse, l'obéissance devient une pièce dominante. Tout acte d'obéissance s'appuie sur un acte de prudence. C'est la prudence qui me fait comprendre l'autorité. Quelle est l'autorité à laquelle je suis soumis? Ça, c'est le propre de l'obéissance. C'est le propre de la prudence, de montrer où est l'autorité. Et alors, vous comprenez que dans l'obéissance chrétienne, la prudence éclairée par la foi et sous la mouvance du don de conseil me montrera que l'autorité religieuse est directement l'autorité du Christ. Ça qui est si grand. Alors vous allez me dire l'évêque aussi, oui, pour tout ce qui regarde le sacerdoce, l'exercice du culte, l'exercice du sacerdoce. Tandis que de l'autre côté, c'est la vie. Alors, encore d'autres petites questions. Peut-on dire que l'obéissance est un acte qui me relie à la volonté du Père à travers un instrument qu'il a choisi? Mais si je ne comprends pas ce qui m'est demandé, que faut-il faire? Voilà, c'est une très bonne question. C'est très vrai. L'obéissance fait que celui qui est mandaté, celui qui est supérieur dans la vie religieuse, je prends dans la vie religieuse parce que pour nous c'est ça en premier lieu. Et au fond, c'est, vous voyez, c'est très net, même, je dirais, par rapport le religieux qui est apôtre. Il est apôtre dans tel diocèse. À l'égard de l'évêque, il y a mutu et relationes. C'est-à-dire que pour tout ce qui regarde le point de vue apostolique dans le diocèse, il dépend de l'obéissance à l'évêque. Mais tout ce qui est sa vie propre de religieux, il continue de dépendre de son prieur. Et donc l'obéissance au prieur enveloppe l'obéissance à l'évêque, et non pas l'inverse. Si vous avez des difficultés là-dessus, notez vos difficultés, hein, parce que je voudrais que ça se soit très très net. Il y a des points comme ça qui sont très très importants pour nous. Alors il faut voir clair. On a besoin de voir très clair là-dessus. Et c'est pas commode, hein. Je l'affirme, c'est pas commode. Parce que je sais très bien qu'il y a des positions diverses. Là, je vous donne ce qui me semble être la position de saint Thomas.
Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça veut dire à ce moment-là que le supérieur religieux ne peut pas intervenir dans l'exercice du sacerdoce quand un religieux dépend pour son sacerdoce d'un évêque?
Oui, oui.
Vous avez dit, l'autorité...
Allez, je suis ici. Je pourrais prêcher dans l'église là à côté. Bon, je ne peux pas le faire sans la permission du curé. Et sans la permission, le curé peut être mandaté par l'évêque. Et l'évêque peut dire, invitez qui vous voulez. Il peut très bien dire ça à l'évêque. Et l'évêque peut très bien lui dire, vous m'avertirez qui vous inviterez. L'évêque a tout à fait le droit de dire ça. Ordinairement, l'évêque dit au curé, je vous donne la liberté. Parce qu'on demande au curé, quand on est invité par lui, est-ce que je dois avertir l'évêque? Il lui dit, mais non, je vous invite. Très bien. Alors que je ne pourrais pas de moi-même aller prêcher, afficher, ce soir à 5h30, j'irai prêcher là. J'ai pas le droit, ce serait illicite, ce serait en dehors de la permission. Oui. Pour l'extrême onction, il y a un malade là, qui est mourant. Il dit, il y a des moines à côté, je sais. C'est lui, c'est lui que je veux, c'est lui. Bon. Alors, vous avertissez le curé, si vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, vous présupposez la permission du curé. Faites la même chose en tout dans n'importe quel lieu où il y a des malades, où il y a un aumônier. Vous avertissez l'aumônier. Parce que c'est lui qui a autorité pour les sacrements. Par l'évêque. Oui, dites.
Est-ce que ça veut dire aussi que vous devez demander l'autorisation à votre supérieur?
Ah oui, c'est évident.
Pour le même acte, il faut deux autorisations.
Oui, tout à fait. C'est sûr, c'est évident. J'obéis au supérieur qui m'envoie prêcher. Et le supérieur, ou c'est lui qui a demandé la permission à l'évêque, ou le supérieur dira, demandez la permission à l'évêque. Oui, mais pour la confession, non. N'importe qui, si vous avez le pouvoir, n'importe qui vous demande de le confesser, vous avez le droit de le confesser. Sauf si vous êtes suspens, c'est évident. Sauf en cas de mort. Alors quelqu'un peut simuler la mort. Mais la confession, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas besoin de demander au curé. Et vous êtes, même, il vaut mieux pas lui dire. Vous n'avez pas besoin de demander au curé, écoutez, un tel, ça vient de paroissien, là. Ce paroissien. Cette paroissienne, vous savez, vous le connaissez bien. Dès qu'elle m'a vu entrer dans l'église, elle s'est précipitée, elle m'a demandé de confesser. Alors, autant possible, faites-le discrètement. N'allez pas vous asseoir dans le confessionnal du curé. Parce qu'avant, maintenant, les curés n'ont plus de confessionnal. Mais avant, il n'y a plus le conseil de monsieur le curé. Alors, vous installez dans le confessionnal du curé. Mais en à peine hein, 2 minutes qu'on était là, le curé arrive. Alors, faites attention, prenez-y quand même un petit peu gênant. Faut pas montrer. Faut être un petit peu de délicatesse. Vous voyez bien ça? C'est la question de l'autorité. Qui a autorité sur moi? Et je dois savoir avec précision l'autorité, le sens de l'autorité. Parce que, voyez, ne pas confondre autorité et pouvoir. Le démon a un grand pouvoir et n'a aucune autorité, ni temporelle, ni spirituelle. Or le démon, de temps en temps, il vous fait croire qu'il a autorité. Aucune. Alors c'est la question de l'autorité temporelle, d'autorité spirituelle, vous voyez. Oui. Il ne peut pas y avoir, vous dépendez de l'esprit, le supérieur vous a dit, écoutez, vaut mieux pas bénir ce mariage. Je prends le cas, il vaut mieux pas bénir ce mariage. D'abord vous êtes trop pris, et puis il vaut mieux pas. Bon. Ça m'est arrivé ça, moi. J'ai appris à la dernière minute un mariage qui se faisait, qui était quasi clandestin. J'ai tout de suite téléphoné au père en question. Puis j'ai dit, écoutez, faites attention. Ce que vous faites est assez dangereux. Expliquez-moi un peu comment ça se fait. Vous auriez pu me prévenir, étant donné le cas spécial. Bon, alors il a obéi tout de suite à dire, bon, très bien, mon père, je comprends très bien. Il aurait pu très bien dire, ah, écoutez, l'évêque m'a permis. Je dis, mais l'évêque vous permet, pensant que je vous ai donné la parismission. Moi, je vais téléphoner à l'évêque et je vais lui dire, je n'accorde pas. L'évêque immédiatement retirera sa juridiction. Oui. Alors, ça ne peut pas arriver, ça. Ça peut arriver, oui, ça peut arriver, tout peut arriver. Dans la Sainte Église de Dieu, tout peut arriver. Et prenez le cas, par exemple, lieu qui était très, très douloureux du reste, avec Mgr Lefebvre. Mgr Lefebvre prétendait avoir juridiction pour la confirmation, par exemple. Il s'installait sur le diocèse et faisait la confirmation alors qu'il n'avait pas de juridiction. Il aurait dû demander à l'évêque. Ces confirmations étaient valides, mais pas licites. Alors, valide, ça veut dire qu'il y avait vraiment le sacrement. Mais il n'était pas licite, il n'était pas dans l'obéissance. Donc, s'il n'était pas dans l'obéissance, il n'était pas licite. Et c'est toujours très, très douloureux, ces choses-là. J'étais, je me souviens, à Paris, à Montmartre, chez les sœurs de au Carmel. Et là, arrivé là-dessus, un prêtre que je connaissais, qui était de Mgr Lefebvre, qui avait été ordonné après toutes les grosses histoires. Donc il n'avait pas le droit de dire sa messe dans une chapelle, dans une église catholique. Il vient me parler, puis au bout d'une heure qu'il me parle, il dit « Vous savez que je suis prêtre ?» Je dis « Oui, je sais, Jésus. Est-ce que vous ne croyez pas que je pourrais dire la messe ici ?» Alors je dis « Écoutez, je suis terriblement gêné. J'ai pas le droit, je ne suis pas chez moi. Évidemment, je pourrais demander à la supérieure que vous puissiez dire la messe sans rien dire du tout. Je la tromperais. Il fera un mensonge. Pratique. Alors, je suis obligé de dire à la supérieure qui vous êtes. Et la supérieure me demandera un conseil, ce qu'elle doit faire. J'en suis sûr d'avance. Alors, j'aime mieux vous dire directement que le Saint-Père a demandé que on ne pouvait pas vous recevoir. J'en suis désolé, ça me fait beaucoup souffrir. Parce que je suis sûr que vous êtes sincère. Mais on comprend aussi qu'on arrête une séparation avec l'autorité de Rome. Vous voyez, ceci montre combien